C'est intéressant que ce soit un texte très court, Daniel Arnaud, un texte qui me frappe quand je le lis, par tout ce qu'on y dit, sauf un mot qui n'est presque jamais dit. De quel événement est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'on parle? Sinon de ça, de cette chose-là. Pour penser ma situation, écrit Annie Arnaud, je n'employais aucun des termes qui la désignaient. C'est ce qu'on ne dit pas, parce que c'est interdit par la loi. C'est ce qui relève de la rumeur, de la conversation à voix basse, de l'ellipse. Je n'avais aucun indice, aucune piste. Et au fur et à mesure que l'événement est raconté dans le détail, le texte se part de parenthèses qui disent justement la difficulté à écrire quand on a des mots qu'on n'avait pas à ce moment-là. On n'a pas employé le mot avortement une seule fois. C'était une chose qui n'avait pas de place dans le langage. Et puis à la toute fin, il y a ce passage. J'ai fini de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit, de la loi. Une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. J'ai effacé la seule culpabilité que j'ai jamais éprouvée à propos de cet événement, qu'il me soit arrivé et que je n'en ai rien fait, comme un don reçu et gaspillé. Car par-delà toutes les raisons sociales et psychologiques que je peux trouver à ce que j'ai vécu, il en est une dont je suis sûr plus que tout. Les choses me sont arrivées pour que je m'en rende compte. Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. Annie Arnaud. L'événement.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle place mon invitée d'aujourd'hui fait-elle à ce langage, à ce mot avortement? En septembre dernier, elle remportait le Lion d'Or à Venise pour son deuxième film en tant que réalisatrice. Variation donc sur l'événement d'Annie Arnaud, dans lequel elle raconte un avortement clandestin dans la France des années 60. C'est une immersion sensible dans le quotidien d'une jeune femme vrillée par le désespoir et portée par une détermination inébranlable. Ça sort la semaine prochaine. Bonjour Audrey Diwan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce mot, avortement, avant toute chose, pourquoi faut-il qu'il ait une place dans le langage?
En fait, pour s'opposer au silence, je pense qu'une des premières choses qu'on s'est dites avec Annie Arnaud, quand je lui ai demandé les droits d'adapter, le droit d'adapter ce livre, on a parlé du silence qui avait entouré la sortie de ce livre, à son sens. Et je pense qu'en fait, les mots, une fois qu'ils sont prononcés, une fois qu'ils rentrent dans la discussion, font évoluer les mentalités.
Quelle place est-ce qu'il a ce mot, avortement, aujourd'hui, à l'heure où en Pologne ou même au Texas, le droit à l'avortement est de plus en plus contesté, restreint, voire interdit?
C'est complexe. En fait, je pense que c'est complexe parce que même il touche la sphère intime de tant de femmes. Et en fait, on l'analyse beaucoup à l'aune de ce qui se passe dans d'autres pays. Mais quelle place est-ce qu'il a ici? À quel point une femme dit, moi, quand j'ai avorté, j'ai eu du mal, moi, à dire ces mots-là.
Ce mot, il n'est pas prononcé une seule fois, d'ailleurs, dans votre film. Ce silence, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte plutôt d'une époque, également?
À mon sens, il raconte la peur et il raconte la honte. En fait, c'est vraiment à la rencontre des deux. La peur d'un système, d'une loi, la peur de finir en prison. Enfin, ça, c'est en surface, mais au fond, je pense surtout qu'il raconte la honte de traverser cette épreuve et la nécessité de trouver une manière de trouver des solutions sans le dire.
Oui, c'est intéressant, c'est ce qu'il produit aussi, ce silence. C'est l'incapacité de se représenter ce que c'est qu'un avortement. Parce que, outre une affaire de femme de Chabrol, ou 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Christiane Mounjou, Palme d'Or en 2007, représenter cela, ça ne s'est pas beaucoup fait. Représenter au cinéma ce qui, pendant des siècles, ne l'a pas été, quel enjeu est-ce que c'était pour vous, Audrey Diwan? Pourquoi est-ce que c'est fondamental surtout?
Alors d'abord, il y a une dimension technique, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à le représenter avec justesse alors qu'on dispose de si peu de matière, d'inspiration. Moi, j'ai bataillé, ne serait-ce que pour savoir ce qu'est cet avortement clandestin, pour le comprendre, pour le cerner. Et c'est important parce que je travaille à l'endroit d'un vide. Moi, j'aime toujours ce qui contient une part d'inédit. Inédit, c'est un mot fort parce qu'il y en a eu des films qui ont traité l'avortement clandestin, mais pas assez pour qu'on puisse se dire qu'on a circonscrit le sujet, je ne pense pas.
C'est passionnant parce que c'est là où le film rencontre vraiment le livre, puisqu'Annie Arnaud, dans le livre, dit bien qu'elle a des récits, mais très peu. Elle a très peu d'histoire, elle a très peu de représentation en fait.
Mais je pense que c'est la première chose que je retiens de la lecture de ce livre. C'est ma méconnaissance, c'est la distance que j'avais avec ce terme avortement clandestin, alors que je me pensais aguerrie de beaucoup de choses.
Quand est-ce que vous avez compris que les livres, les films, l'art en général pouvaient apporter des réponses à vos questions les plus personnelles, les plus intimes, Audrey Diwan?
Avant même d'être en âge de me poser la question. Je pense que dès que j'ai su lire, j'ai commencé à parcourir le monde et à construire mon monde des idées à travers les livres. Donc, je n'ai même pas eu le temps de me poser cette question.
Et dans ce livre, précisément, l'événement d'Annie Arnaud, qu'est-ce que vous avez trouvé comme question et comme réponse?
En fait, j'ai trouvé plusieurs choses parce que, évidemment, ce qui m'intéresse dans le livre ne se résume pas à l'avortement clandestin.
Oui.
Ce qui m'intéresse et qui me touche, me passionne, c'est un parcours de, le parcours de cette jeune femme de transfuge de classe, c'est son destin intellectuel qu'elle préserve avant tout, pour lequel elle se bat. C'est une manière aussi d'aborder en creux ou en plein, selon les moments, la question sexuelle, le désir. Enfin, de manière globale, j'ai trouvé un chemin, j'y voyais moins un chemin vers la liberté, et je suis sensible à la question.
Dans quelle mesure votre film, justement, c'est peut-être avant tout un film sur le désir?
Je pense qu'il est central dans le film. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup interrogé avec Marcia Romano, avec ma co-scénariste, sur comment le faire exister à l'image.
Comment ça se filme, c'est ça?
En fait, par touche. Nous, on l'a fait naître par touche. C'est-à-dire qu'au départ, il est question du désir. On en parle à demi-mot entre filles. Et puis on voit une image. Puis une jeune femme mime ce plaisir jusqu'au moment où mon personnage se sent capable d'embrasser l'idée de son propre plaisir. Parce qu'il s'agit, même au-delà du désir, de jouissance. Et en fait, je pense qu'il fallait rentrer dans les sensations et pas seulement à l'endroit de la douleur.
Oui, c'est le palpable, en fait.
Le concret.
Mais ça, au cinéma, c'est compliqué.
Moi, j'aime le concret. J'aime tout ce qui passe par le corps. Et d'ailleurs, en entendant votre ouverture et en entendant à quel point Annie Arnaud parle de cette expérience vécue d'un bout à l'autre à travers le corps, je me souviens que c'est par cette pulsion que j'étais portée en faisant le film.
Audrey Diwan, à quoi on s'expose quand on est une femme et qu'on revendique son droit au plaisir, son droit à disposer de son propre corps?
Je trouve que la confrontation est toujours violente à cet endroit-là parce que ça semble si légitime en fait, et puis à mon sens si peu dangereux. En fait, je suis toujours intéressée par le danger et qui voient les autres, ceux qui s'opposent à cette idée qu'on puisse prendre du plaisir.
Et qui en font une stigmatisation, qui produisent de la honte.
Ah oui, oui, je l'ai vécu d'un bout à l'autre, cette histoire, et dans mon corps.
Comment on en sort de la honte, de la stigmatisation alors?
Moi, j'ai l'impression d'être en conquête. En fait, j'en sors par les idées, j'en sors par la pensée, mais surtout, et c'est le plus important pour moi, j'en sors au-delà de l'affrontement et de la confrontation. J'en sors par la discussion.
Et par la création aussi, de nouvelles représentations, de nouvelles histoires.
Mais justement pour que se posent des questions. Voilà, moi, je peux avoir une nature comme ça, naturellement, spontanément et plus jeune, à interroger par l'affrontement. Et puis un jour, on dépasse ça parce que ça n'a pas de sens, en fait. Ça oppose des opinions et les met dos à dos. Et voilà, en dépassant ça, en faisant que naisse la discussion, j'ai l'impression de sortir de certaines idées et représentations.
Mais encore faut-il qu'on vous laisse parler, qu'on vous laisse représenter, qu'on vous laisse raconter ces nouvelles histoires. Vous le dites, ce film sur l'avortement clandestin, il n'a pas été facile à financer. Pour quelles raisons, à votre avis? Comment vous l'expliquez, particulièrement aujourd'hui, après qu'il a été récompensé?
Alors, il y avait plein de bonnes manières et de dire non à ce film. En fait, parce que sur le papier, c'est complexe. Ce n'est que mon deuxième film. Je propose une forme qui est relativement radicale. Les acteurs, les jeunes acteurs sont peu connus. Et le sujet, quand on le réduit à l'avortement clandestin, peut faire peur. Donc il y avait plein de bonnes raisons de me dire non. Après, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je l'ai senti. Il y a des gens qui n'étaient pas pour l'avortement clandestin. Il y a aujourd'hui encore en France des gens que cette idée dérange. Et donc leur nom à eux était teinté d'autre chose.
Quelles histoires est-ce qu'il nous reste à raconter, Audrey Diwan, au fond? Parce que j'ai l'impression que c'est une question qui vous hante.
Moi, j'ai le sentiment d'en avoir tant, en fait. C'est-à-dire que dès que j'interroge l'intime, et c'est aussi parce que c'est ma manière de penser les choses et mon désir de créer se situe là, c'est-à-dire que dès que j'interroge mon vécu, je peux facilement mettre le doigt sur des endroits qui m'intéressent, sur des territoires que j'ai l'impression de ne pas encore avoir explorés.
Il se passe quelque chose, là? On vous donne le droit de raconter ces histoires?
Ma première pensée au moment où j'ai reçu le Lion d'Or, non, pas tout à fait ma première, parce que d'abord j'ai pensé à Annie Arnaud, à ma comédienne, au film, bon. Mais j'ai aussi évidemment pensé à la liberté que je gagne à ce moment-là, parce que on ne sait en fait, c'est ce qui est à acquérir quand on veut faire.
Vous savez qu'il y en a une qui raconte pas d'histoire dans cette émission, vous la connaissez, Audrey, c'est la culture et son actualité qui manque d'imagination, mais qu'on aime quand même, et comme elle est, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 18 novembre?
méfiance, les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine, les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
Sujet sensible à quelques jours des 3 ans du mouvement des Gilets jaunes et alors que la pré-campagne électorale bat son plein, Aurel San a dévoilé hier L'odeur de l'essence, premier extrait musclé de son album Civilisation qui sortira demain. Flow hypnotique, instru féroce, le rappeur normand y dévoile avec brio une prose résolument politique, nostalgie, paranoïa, peur, panique, haine et polémique. Il y fustige des leaders pyromanes et prophétise le crash de notre société et même de la civilisation. Il sera demain dans Boomerang pour en parler. On vous a donné le ton. Croyance et sacré entre Europe et Méditerranée, c'est le thème des rencontres d'Averroès qui débutent aujourd'hui à Marseille. Croisant les regards d'artistes, de chercheurs et d'auteurs, la manifestation interdisciplinaire investit plusieurs lieux de la ville, notamment le bouillonnant théâtre de la Criée. Au programme 4 tables rondes pour interroger les formes du sacré et nos façons de croire. Des ateliers pour les scolaires, 3 soirées de concerts avec l'Orchestre National de Barbès ou encore Orpheus 21, le projet initié par Jordi Savall, c'est pas mal. De 1 gagné, le jeune écrivain et journaliste Mathieu Palin a clos la saison des prix littéraires d'automne en obtenant hier l'Interallié. Il emporte la mise avec Ne t'arrête pas de courir, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Un portrait fascinant de l'athlète Toumani Koulibaly, sprinteur médaillé le jour et braqueur la nuit. Un texte qui interroge les déterminismes sociaux et le système judiciaire français en même temps qu'il réfléchit aux enjeux intimes et politiques de l'écriture du réel. Elle est belle. New York Herald Tribune. Et enfin, la Bibliothèque nationale de France a annoncé hier qu'elle avait retenu la candidature de la ville d'Amiens pour y installer son futur conservatoire national de la presse. Premier pôle décentralisé de l'institution parisienne, le lieu servira à accueillir l'une des plus grandes collections d'imprimés au monde, soit 300 000 titres de presse, dont les plus anciens remontent au XVIIe siècle. Le projet, qui réunira des espaces de conservation, de numérisation, de consultation, doit voir le jour sur les friches d'un ancien hôpital de la ville dès 2024 et être finalisé en 2028. Rien ne presse, vous l'avez, parce que presse. La réalisatrice Audrey Diwan, invitée de Boomerang ce matin pour l'événement Lion d'or, on le disait, lors de la dernière Mostra de Venise au cinéma mercredi. Variation sur le livre d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, que vous avez consulté, hein, vous le disiez, pendant toute la période d'écriture de ce film. Comment ça s'est passé, en fait?
Je l'ai vue d'abord une première fois quand elle a été d'accord pour que j'adapte ce livre. Et on a retracé chronologiquement tous les événements qui amène à cet événement-là, mais aussi en éclairant une forme de hors-champ. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de questions sur ce qui n'était pas dans le livre.
Et oui, parce que c'est un livre, on en a parlé, sur le silence, sur les mots qui manquent aussi.
Oui, et puis c'est un livre qui est très concentré autour de la question de l'avortement clandestin. Et j'avais d'autres questions, mais nourries par les livres d'Annie Ernaux elle-même, parce que ce qui est très étrange quand on adapte Annie Ernaux, c'est que beaucoup de ses livres sont connexes. Donc j'avais en tête des questions qui étaient liées à la femme gelée, à ses rapports à ses parents, au rapport au sexe.
Il paraît qu'à la veille du tournage, elle vous a dit une phrase que je trouve assez incroyable. « Soyez juste, le reste viendra de surcroît ». Cette phrase, comment vous l'avez entendue, Audrey Diwan? Qu'est-ce que vous en avez fait?
Alors, c'est une phrase de Tchekhov et j'ai un peu tremblé en la recevant et j'ai décidé très lâchement de la partager avec toute l'équipe. Donc, je l'ai mise à ce qu'on appelle la feuille de service qui est distribuée à tout le monde le premier matin pour qu'on porte ensemble cette injonction.
Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait? Qu'est-ce qui doit être juste?
Alors juste, c'était un peu la pierre angulaire d'une réflexion commune et qui consistait d'abord à renoncer à tout ce qui était artificiel. C'est-à-dire comment on reste aligné avec le livre. Moi, j'avais besoin de trouver mon geste dans le prolongement du sien et il fallait s'appuyer sur une idée et l'épure, la justesse, ne pas chercher à être démonstratif.
On le sait quand on est juste.
On sent quand on n'est pas démonstratif, en tout cas.
Je vous pose aussi la question, parce qu'après tout, ce film, c'est que votre second long-métrage en tant que réalisatrice, mais il se trouve que vous êtes également, et depuis longtemps, scénariste, ainsi que romancière. En quoi la justesse d'un film se décide-t-elle peut-être d'abord au moment de l'écriture?
Alors, je pense, mon sentiment, c'est que les choses se dessinent à cet endroit-là quand on interroge le sens en même temps que la forme. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Il ne peut pas y avoir de déconnexion. Je ne pense plus le texte d'abord, puis le film qui doit venir, mais les deux ensemble.
Quand est-ce que l'écriture est entrée dans votre vie?
Dès que j'ai su écrire. et longtemps en cherchant quelle serait la forme, par quel biais ça passerait. Est-ce que c'est journalistique? Est-ce que c'est par la forme romanesque? J'ai fait plusieurs essais, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je suis assez critique et dure avec mon travail. Et puis un jour, j'ai trouvé une forme qui me correspondait plus.
Et pourquoi écrire? Vous voulez te poser cette question?
Pour résoudre. Enfin, moi, je pars toujours de questionnements extraordinairement intimes et puis j'essaye de les résoudre en ne parlant pas qu'à moi.
Vous savez, l'écriture, c'est l'endroit où il y a le moins de liberté pour moi, par exemple. Il faut toujours se libérer de quelque chose. À des moments ou à un autre, il faut toujours se libérer.
Annie Arnaud, à ce micro, il y a 5 ans, qui dit qu'il faut toujours se libérer. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Je suis absolument d'accord, mais je pense que l'exercice est complexe. C'est avec quelle vérité on peut regarder et analyser ce qu'on ressent, ce qui nous traverse.
De quoi vous reste-t-il encore à vous libérer, Audrey Diwan ?
D'énormément de choses. Je veux dire, j'interroge mon rapport au temps qui passe, à l'âge. J'ai l'impression qu'en fait, chaque nouvelle étape de ma vie va m'apporter de nouvelles prisons, en quelque sorte, dont il faudra que je sache sortir.
Oui, cette phrase d'Annie Arnaud, elle dit quelque chose de certains combats. On parlait de l'avortement tout à l'heure, de certains combats qui sont toujours à recommencer et qu'il faut continuer à écrire encore et encore. Vous y pensez à ça ?
En fait, surtout, je pense que je ne pourrais jamais faire autrement. Donc, vous voyez, là, en ce moment, j'adore absolument la période que je vis et ce qui se produit autour de mon film. Et je rêve de retrouver le calme et le silence et de me remettre à écrire aussi, parce que je suis en manque de ces moments-là.
Parce que ça, c'est quelque chose que vous filmez dans l'événement et dont on ne parle pas beaucoup. Si je vous parle d'écriture, c'est évidemment parce que c'est l'histoire d'une vocation d'écrivain que vous racontez. Lorsque son professeur lui demande ce qu'elle veut faire dans la vie, le personnage d'Anne lui répond « Je veux écrire ». Cette phrase, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle produit, Audrey Diwan ?
Cette phrase, elle arrive tard parce qu'il faut arriver à cette phrase. Pour moi, cette phrase, c'est un aboutissement. C'est comment on se construit pour parvenir à la dire, pour s'autoriser à la dire.
Ça naît, pour ainsi dire, de l'avortement qu'elle a subi. Cet avortement, cet événement fondateur qui la détermine à jamais et qui fait qu'elle advient en tant que futur écrivain.
Alors, c'est le cas dans mon texte. Là, c'est peut-être ce que j'adapte et c'est comme ça que je le perçois. Mais effectivement, ça fait partie, à mon sens, des événements déterminants. C'est-à-dire celui où on se trouve, on se choisit, où on fait un choix fondamental qui en plus engage dans ce cas précis des questions de vie ou de mort.
Ça pose une question incroyable, est-ce qu'un destin ça s'écrit ?
Et alors, je me pose souvent la question, et il y a un recueil de textes d'Annie Arnaud que j'ai chez moi et qui s'appelle « Écrire la vie ».
C'est une collection, effectivement, une anthologie en fait de ces textes.
C'est Quarto, oui. Ouais. Et donc « Écrire la vie », pour moi, quand je pense à ce titre, je me dis qu'il y a évidemment une part d'autodétermination. Et donc c'est le moment où on cesse de céder à tous les déterminismes.
Quel destin est-ce que vous voudriez écrire pour vous, Audrey Diwan ?
Écoutez, moi j'ai toujours le désir d'écrire un chemin de liberté. Je pense que je viens de loin en fait, je pense que je me suis beaucoup enfermée et que progressivement j'ouvre des portes pour prendre les risques inhérents à un chemin qui me plairait et qui serait libre.
On va reparler ensemble de destin, d'écriture, de langage, juste après Anne Sylvestre quand même. Non, tu n'as pas de nom, en 1974 sur l'album Les pierres dans mon jardin. Un an, je le rappelle, avant la légalisation de l'avortement en France. Vous êtes sur France Inter avec Audrey Diwan. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, tu n'as pas. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, tu n'as pas de nom. non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Sans sa voix, en fait, cette prestance, cette assurance qui vous donne envie non seulement de l'écouter mais aussi de la suivre quelque part entre la liberté guidant le peuple et la chef de gang, parce qu'il y a un peu de ça quand même, le cheveu, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, le regard fier assez incandescent, le sourire volontiers mordant, avec son petit t-shirt ce matin, noir et blanc, la réalisatrice Audrey Diwan, invitée de Boomerang pour l'événement au cinéma mercredi, adapté du livre d'Annie Ernaux, on le disait, qui raconte l'histoire donc de cet avortement clandestin dans la France des années 60, entre autres l'histoire d'une jeune femme qui dès l'instant où elle se sait enceinte, va compter les jours et vivre en quelque sorte avec le temps qui court. Le temps, je me suis demandé, quelle matière est-ce que c'est au fond pour vous, pour la cinéaste que vous êtes ?
Alors, deux choses extrêmement importantes pour moi sur ce film. La première, c'est qu'une phrase d'Annie Ernaux me restait en tête. Et elle a une dimension un peu, si je caricature, je dirais thriller ou horrifique. En tout cas, un genre de suspense qui traverse le film. Et elle dit, le temps avait cessé d'être cette succession de jours à remplir de cours et d'exposés. Il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi. Donc c'est la première phrase qui me guide sur la relation au temps, ce que c'est que le temps de cette jeune femme qui se confronte au temps des étudiants qui n'ont pas de problème, eux. Et l'autre chose, c'est quelle est la bonne durée des scènes. Je sais que je veux faire de mon film une expérience, non pas un récit, mais quelque chose qui convoque le corps du spectateur et ses sensations. Et pour moi, la différence entre le théorique et ce qu'on vit et qu'on partage, c'est la durée. Donc quelle est la bonne durée des scènes ? C'est une scène où je demande à la comédienne, Anna Maria Bartolomé, de tenir ses émotions et ses sensations, mais où je ne vais pas trop loin, parce que dès qu'on va trop loin, on rentre dans la provocation. Et ça, je ne veux pas.
Alors, il y a des étapes dans le temps du cinéma. Il y a l'écriture de la scène avec un certain temps. Il y a ce qui se joue quand c'est filmé. Il y a le montage aussi, je suppose. Comment on le matérialise, ce temps ? La justesse du temps, Audrey Diwan ?
Alors, pour moi, ça n'a été qu'un seul et même mouvement, parce que je l'ai pensé à l'écriture, confirmé au tournage et monté comme on l'avait pensé. Donc, il y avait quelque chose de très aligné dans cette volonté de maîtriser le temps du récit.
Alors, quelle est la matière que vous choisissez ? Comment vous faites, en fait, pour faire ressentir cette pesanteur du temps qui passe, tout en provoquant chez le spectateur, et c'est ça qui est intéressant, une impatience, une fébrilité, une attente, j'irais même jusqu'à dire un suspense ?
Eh bien, au départ, je me suis trompée. Je pensais que, comme elle était dans un état d'urgence, il fallait syncoper le récit. Donc j'avais écrit des scènes courtes,
oui.
Et justement des scènes qui ne duraient pas, alors que je me suis rendu compte que l'intérêt venait de la confrontation. Entre cette urgence intérieure qu'on connaît, on nous impacte avec cette jeune femme, on est elle, on sait, et le temps des autres, qui est un temps beaucoup plus lent, et donc c'est à la confrontation entre ces deux temporalités qu'on ressent.
Et je vous pose la question, c'est quand même super de parler avec une scénariste également. Il se trouve, vous êtes rodée à l'exercice de l'écriture du thriller. Audrey Diwan, vous avez participé au scénario de films comme Bac Nord, La French, ou encore Aux yeux de tous, de Cédric Jimenez. Je pense aussi à votre travail sur la série Mafiosa. Qu'est-ce qui fait un bon thriller pour vous ?
Alors, moi, j'ai beaucoup appris avec Cédric. Je dois quand même préciser que Bac Nord, je n'étais vraiment qu'au tout début de l'écriture. Et ensuite, il a poursuivi sa route tout seul. Mais ce que j'ai appris avec lui, c'est... J'ai flirté avec un genre que je connaissais mal, en fait. J'ai flirté avec le genre du film noir des années 70. Donc, en fait, ma culture se déplace. Au fur et à mesure que je fais des rencontres, au fur et à mesure que j'écris pour d'autres, je découvre des univers, une cinéphilie qui n'est pas forcément la mienne au départ, et je sors plus riche de ça.
Et dans quelle mesure cet enrichissement, justement, a nourri votre écriture de l'événement ?
Eh bien, je pense qu'à l'endroit de la tension, en fait, je pense qu'à l'endroit du fil tendu d'un début à la fin, de ce rapport à l'urgence, je pense que le film tient aussi à cet état d'urgence qui est quand même une des dimensions qu'on utilise quand on écrit le thriller.
Et pourtant, on peut pas faire plus opposé en termes de tonalité, de rythme, de sensibilité que Bac Nord et l'événement, on est d'accord?
Oui, mais en fait, qui sont la manifestation d'une chose simple, hein, c'est que malgré tout, un film, c'est l'air désir de réalisateur et c'est sa manière de raconter, d'imposer ou de partager.
Qu'est-ce qu'il a fallu, Audrey Diwan, pour que vous décidiez, à un moment donné, de réaliser vos propres histoires ?
Il a fallu que je ne puisse plus m'en empêcher. Il a fallu que j'ai envie d'écrire et de manière beaucoup moins partageuse de l'incarner, que de sentir que ce sont mes images parce que le sujet est mien et parce que je suis proche de ce que j'écris. Mais néanmoins, j'adore écrire pour les autres et je continuerai à le faire.
Mais Diagnaud, il y avait une frustration.
Il y a toujours une part de frustration là-dedans, évidemment. C'est-à-dire qu'on voit les autres faire et puis on imagine quelles images on aurait faites. C'est une frustration qui est tout à fait acceptable, voire qui est porteuse quand on ne se sent pas complètement corps à corps avec le texte. Et puis au fur et à mesure qu'on circonscrit un désir, une envie de dire, un propos, après on peut plus imaginer de le laisser à d'autres.
Je me rends compte, Audrey, qu'on a beaucoup parlé d'écriture dans cette émission ensemble, mais peut-être pas assez.
C'est vrai.
De regard. Et il se trouve que c'est un texte sur le regard que vous nous avez écrit ce matin. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous le lisiez.
Avec plaisir. On me parle beaucoup de mon regard ces derniers temps. Vous l'aurez deviné, on ne m'interroge pas sur la couleur de mes yeux, ni sur la nature des sentiments qui l'animent. On ne veut pas savoir s'il est cynique, perplexe ou plein d'espoir. Si on interroge mon regard, c'est pour en connaître le sexe. Est-ce que je porte sur le monde un regard de femme, un female gaze, pour employer l'expression qui se popularise ? D'autant que je traite dans mon film de manière intimiste l'avortement clandestin et que je filme le corps nu de mon actrice sans l'érotiser, si ce n'est quand elle l'érotise elle-même. Je peux donc dire, dès la première fois où l'on m'adresse cette question, et elle survient très tôt, que mon regard est féminin. Je l'affirme avec une certaine confiance, une joie même de porter haut ce regard. Mais à mesure qu'on me répète cette question, elle se met à résonner autrement. Elle se teinte d'une tonalité différente. J'ai l'impression étrange que la question se déplace, que par cette façon d'aborder le féminin, on me défend d'être autre chose. Mon regard rétrécit et son champ avec. Je ne suis plus le fruit d'une culture, d'un vécu, d'une cinéphilie. Le mot « femme » semble avaler le reste. C'est un regard de femme, point. Et ce regard-là crée des suspicions, évidemment. C'est peut-être mon genre qui est récompensé le jour où on me remet le Lion d'or à Venise. La femme, lentement, prend le pas sur celle qui crée. Sur toutes les autres dimensions qui font la complexité d'un regard. On ne parle plus de mon genre pour en souligner la particularité, on me renvoie à lui, on m'assigne à lui. Un film de femme pour les femmes, ai-je même entendu avant-hier. Voilà qu'on met le film dans une boîte et mes yeux avec. Pourtant, j'ai réalisé l'événement en espérant que mon regard de femme pourrait faire le pont entre les sexes. Que cette expérience impliquerait les sens et inviterait chacun à se glisser, pendant une centaine de minutes, dans le corps de cette jeune fille malmenée par la loi. C'est la force du cinéma, me semble-t-il, de sortir le spectateur de son propre cadre et de le livrer à d'autres vécus. Pour voir s'il est tout à fait le même quand la lumière se rallume. Sonder son human gaze et chercher à savoir s'il garde en lui une résonance, quelque chose de ce chemin parcouru ensemble main dans la main. Mon regard maintenant se perd à l'horizon, cherchant au loin le jour heureux, où le genre de l'artiste sera une question dépassée.
Comment ça se construit, un regard, Audrey Diwan ?
Ça se construit en acceptant qu'il est fait de plein de choses différentes, en acceptant sa propre nature, en prenant le risque de le livrer franchement.
Ça se construit aussi quand on accepte qu'il est construit par d'autres.
Évidemment. Mon regard, il est construit et est fait de toutes les rencontres que je fais, des critiques quand elles trouvent écho. Enfin, c'est s'accepter soi-même, accepter l'autre aussi.
Par quel film est-ce qu'il a été nourri, ce regard, à votre avis ?
J'ai un panthéon de films que j'adore et c'est intéressant parce que Munju en fait partie, je dirais aussi Kore-eda, Ken Loach, Andrea Arnold, Agnès Varda.
ce qu'on entend quand même dans votre texte, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de violent dans cette injonction à un regard qui serait préconstruit, quelque part.
En fait, tout l'enjeu, c'est de ne pas accepter l'injonction, en fait. Tout l'enjeu, c'est de se battre, mais au bon endroit, se battre, comme je vous le disais, sans en faire une guerre, pour rouvrir les portes, pour discuter, pour faire admettre que la complexité doit primer sur le reste.
Se battre sans en faire une guerre.
Ouais. Ça veut dire se battre avec des idées et pas se battre en mettant des coups.
Merci tellement, Audrey Diwan, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que l'événement Lion d'Or de la dernière Mostra de Venise avec Anna Maria Bartolomei, Luana Bajrami, Louise Ori Di Quero, Sandrine Bonner, Anna Mouglalis, Pio Marma et notamment sort mercredi et que c'est un événement. Tout de suite, les médias, la facétieuse Sonia De Villers et son instant M, juste après ça.
We die, this life isn't fair. I miss the high, I live a lie. And one day we'll die, no one will care. Take me inside, I'll meet you there.
S'appelle Yeah, Mac Miller sur France Inter et Sonia De Villers, l'instant M, il est 9h40, ça va Sonia?
Ça va Augustin. Bon bah voilà, on se retrouve demain.
Évidemment.
Salut.